Étienne Bonneau de Condillac, 1755, Traité des animaux. Première partie, du système de Descartes et de l'hypothèse de M. de Buffon. Chapitre 5. Que les bêtes comparent, jugent, qu'elles ont des idées et de la mémoire. Il me sera aisé de prouver que les bêtes ont toutes ces facultés. Je n'aurai qu'à raisonner conséquemment, d'après les principes mêmes de M. de Buffon. La matière inanimée, dit-il, n'a ni sentiment ni sensation, ni conscience d'existence, et lui attribuer quelques-unes de ses facultés, ce serait lui donner celle de penser, d'agir et de sentir à peu près dans le même ordre et de la même façon que nous pensons, agissons et sentons. Or, il accorde aux bêtes sentiments, sensations et conscience d'existence. Elles pensent donc, agissent et sentent à peu près dans le même ordre et de la même façon que nous pensons, agissons et sentons. Cette preuve est forte. En voici une autre. Selon lui, la sensation par laquelle nous voyons les objets simples et droits n'est qu'un jugement de notre âme occasionné par le toucher. Et si nous étions privés du toucher, les yeux nous tromperaient non seulement sur la position, mais encore sur le nombre des objets. Il croit encore que nos yeux ne voient qu'en eux-mêmes, lorsqu'ils s'ouvrent pour la première fois à la lumière. Il ne dit pas comment ils apprennent à voir au dehors, mais ce ne peut être, même dans ses principes, que l'effet d'un jugement de l'âme occasionné par le toucher. Par conséquent, supposer que les bêtes n'ont point d'âme, qu'elles ne comparent point, qu'elles ne jugent point, c'est supposer qu'elles voient en elles-mêmes tous les objets, qu'elles les voient doubles et renversés. M. de Buffon est obligé lui-même de reconnaître qu'elles ne voient comme nous que parce que, par des actes répétés, elles ont joint aux impressions du sens de la vue celles du goût, de l'odorat ou du toucher. Mais en vain évite-t-il de dire qu'elles ont fait des comparaisons et porté des jugements, car le mot « joindre » ne signifie rien, ou c'est ici la même chose que comparer et juger. Afin donc qu'un animal aperçoive hors de lui les couleurs, les sons et les odeurs, il faut trois choses. L'une, qu'il touche les objets qui lui donnent ses sensations, l'autre, qu'il compare les impressions de la vue, de l'ouïe et de l'odorat avec celles du toucher, la dernière, qu'il juge que les couleurs, les sons et les odeurs sont dans les objets qu'il saisit. S'il touchait sans faire aucune comparaison, sans porter aucun jugement, il continuerait à ne voir, à n'entendre, à ne sentir qu'en lui-même. Or, tout animal qui fait ces opérations a des idées. Car selon M. de Buffon, les idées ne sont que des sensations comparées, ou des associations de sensations, ou pour parler plus clairement, il a des idées, parce qu'il a des sensations qui lui représentent les objets extérieurs et les rapports qu'ils ont à lui. Il a encore de la mémoire, car, pour contracter l'habitude de juger à l'odorat, à la vue, etc., avec tant de précision et de sûreté, il faut qu'il ait comparé les jugements qu'il a portés dans une circonstance avec ceux qu'il a portés dans une autre. Un seul jugement ne lui donnera pas toute l'expérience dont il est capable. Par conséquent, le centième ne la lui donnera pas davantage s'il ne lui reste aucun souvenir des autres. Il sera pour cet animal comme s'il était le seul et le premier. Aussi, M. de Buffon admet-il dans les bêtes une espèce de mémoire. Elle ne consiste que dans le renouvellement des sensations, ou plutôt les ébranlements qui les ont causées. Elle n'est produite que par renouvellement du sens intérieur matériel, il l'appelle réminiscence. Mais si la réminiscence n'est que le renouvellement de certains mouvements, on pourrait dire qu'une montre a de la réminiscence. Et si elle n'est que le renouvellement des sensations, elle est inutile à l'animal. M. de Buffon en donne la preuve lorsqu'il dit que si la mémoire ne consistait que dans le renouvellement des sensations passées, ces sensations se représenteraient à notre sens intérieur sans y laisser une impression déterminée, qu'elles se présenteraient sans aucun ordre, sans liaison entre elles. De quel secours serait donc une mémoire qui retracerait les sensations en désordre, sans liaison et sans laisser une impression déterminée? Cette mémoire est cependant la seule qu'il accorde aux bêtes. Il n'en accorde pas même d'autres à l'homme endormi, car pour avoir une nouvelle démonstration contre l'entendement et la mémoire des animaux, il voudrait pouvoir prouver que les rêves sont tout à fait indépendants de l'âme, qu'ils sont uniquement l'effet de la réminiscence matérielle et qu'ils résident en entier dans le sens intérieur matériel. Les imbéciles, dit-il, dont l'âme est sans action, rêvent comme les autres hommes. Il se produit donc des rêves indépendamment de l'âme, puisque dans les imbéciles, l'âme ne produit rien. Dans les imbéciles, l'âme est sans action, elle ne produit rien. Il faut que cela ait paru bien évident à M. de Buffon, puisqu'il se contente de le supposer. C'est cependant leur âme qui touche, qui voit, qui sent et qui meut leur corps, suivant ses besoins. mais persuadé qu'il a déjà trouvé des rêves où l'âme n'a point de part, il lui paraîtrait bientôt démontrer qu'il n'y en a point qu'elle produise et que par conséquent, tous ne résident que dans le sens intérieur matériel. Son principe est qu'il n'entre dans les rêves aucune sorte d'idée, aucune comparaison, aucun jugement, et il avance ce principe avec confiance parce que sans doute il ne remarque rien de tout cela dans les siens. Mais cela prouve seulement qu'il ne rêve pas comme un autre. Quoi qu'il en soit, il me semble que M. de Buffon a lui-même démontré que les bêtes comparent, jugent, qu'elles ont des idées et de la mémoire.